Jeudi, 20 février 2020, 18h43. Belle plaque de glace, juste devant chez moi sur le trottoir. Zwiz Flow. Ma jambe droite aboutit sous moi, pliée du mauvais côté. Entorse. Ça fait mal. Après 7 minutes sans bouger, on me monte au deuxième étage, dans mon appartement, où pendant 90 minutes, j'attends une amie, moi couché sur le ventre, pour qu'elle vienne me mettre au lit et dans la glace pour la nuit. Toi qui m'écoutes, sache qu'à ce moment-là, je souffre. Je souffre beaucoup. J'appréhendais des jours d'immobilisation, d'incapacité, de dépendance envers autrui, d'urine dans une vulgaire bouteille de plastique, vulgaire, je disais, 2 semaines de calvaire insupportable. Non, je voulais pas vivre ça. Mais je me disais, Luc, tu dois te prendre en main. Tu dois dire non à la douleur. Surtout que Christiane est trop bonne. Elle va prendre ta job temps plein. Je ne voulais pas me laisser abattre malgré les souffrances. Je voulais marcher. Je devais revenir. Être libre. Oui, encore aveugle, mais libre. Libre de mes mouvements, de mes décisions. Le défi était grand. Béquilles, exercices, grimaces, plaintes. Mais aujourd'hui, me voici. Debout, je me lève devant Jean-Sébastien. Je me lève devant vous. Béquilles retournées chez Jean Coutu. Ils m'ont remis mon dépôt. Je suis revenu à la radio. À Canal M, la radio de Vues et Voix, pour Accès Libre. Salut Jean-Sébastien Laliberté.
Salut Luc.
Comment vas-tu?
Je suis bouche bée.
Yeah! Moi aussi, je suis bien content d'être là, vraiment. Et j'espère que les gens ont compris, là. C'est parce que souvent, lorsqu'on a des petites tuiles comme ça dans la vie, il me semble que j'entends des gens là, qui disent « Ah, là, j'ai compris c'était quoi d'être handicapé, puis j'ai... » Non, non, non. On parle de sujets, semaine après semaine, qui sont tellement plus sérieux que ce que j'ai vécu, même si c'est vrai que c'est pas le fun, là, mais non, sachez que j'ai... Pensez à vous en me disant, je suis censeux parce que dans 2, 3 semaines, 4 semaines, ça va aller mieux. Premier sujet, parce qu'aujourd'hui, on va se faire, on va travailler nos neurones. Je regardais les sujets que Christiane et moi avons mis sur la table. Et le premier, et là là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que je remarque souvent entendre, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qui dit que les enfants sont trop souvent médicamentés lorsqu'on parle d'un TDAH, que les profs veulent la solution facile, hein, la petite pilule. Ben, en novembre dernier, plusieurs experts ont témoigné à la commission parlementaire portant justement sur l'augmentation préoccupante de la prise de médicaments par les jeunes liés au TDAH. Et on voulait parler à l'une de celles qui a témoigné, Marie-Christine Brault, qui est professeure au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui, elle, a avancé que nous serions dans une médicalisation de l'immaturité plutôt que seulement le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous?
Bonjour M. Fortin, ça va bien, merci.
Vous pouvez m'appeler Luc, il n'y a aucun problème. Marie-Christine, qu'entendez-vous par, parce que moi c'est la première fois que je lisais ça, une médicalisation de l'immaturité?
Bien, d'abord, une médicalisation, c'est le fait de prendre quelque chose qui n'est pas médical à la base et d'en parler avec des termes médicaux, de le traiter avec des traitements médicaux. Vous voyez, donc, de prendre quelque chose qui n'est pas médical à la base et de le rendre médical. Mm-hmm. Et quand on parle d'immaturité, en fait, les enfants se développent, ils ne se développent pas tous au même rythme. Ouais. Et on gagne donc en maturité cognitive, comportementale, émotionnelle, affective, etc. Puis, ce qu'on remarque, en fait, dans le cas du TDAH, c'est qu'il y a certains enfants pour lesquels ils ne semblent pas, en tout cas, avoir un vrai trouble du TDAH, mais plutôt un retard au niveau de leur maturation.
Selon certains chiffres que j'ai lus, vous me direz si je me gourre ou pas, mais il y aurait la moitié des diagnostics qui pourraient être erronés.
En fait, c'est très difficile à calculer, là. C'est très difficile à estimer, mais il y a des études qui ont
été... C'est énorme, là.
Oui, oui, c'est énorme, c'est énorme. En fait, puis il y a beaucoup de personnes qui, justement, questionnent là, le diagnostic, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune façon de poser un diagnostic pour lequel on va être certain à 100%. OK?
Okay.
Les gens, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas aucun test physiologique, biologique qui va déterminer si la personne a réellement le TDAH ou pas. Donc, c'est vraiment basé sur une observation des symptômes et une observation des impacts des symptômes sur la vie quotidienne. Donc, ça reste qu'il y a quand même de la subjectivité qui entre en ligne de compte. Puis, chez les enfants, tous les enfants présentent des comportements d'hyperactivité, d'inattention, d'impulsivité, certains plus que d'autres. Puis, donc, ça va jouer là, en fait, à quel moment ou comment est-ce qu'on va identifier que c'est un TDAH ou non un TDAH.
Mais Marie-Christine Brault, si vous le savez, j'imagine que les professionnels de la santé le savent aussi, lorsqu'ils sont appelés à faire des diagnostics, qui d'abord peut diagnostiquer au Québec et comment se fait-il que ce soit, disons, deux fois plus ou même un tiers, comment se fait-il qu'il y en ait autant de diagnostics erronés?
Bien, d'abord au Québec, les médecins, donc tous les médecins, qu'ils soient généralistes, pédopsychiatres, psychiatres, etc., peuvent diagnostiquer le TDAH chez les enfants. Puis il y a aussi les psychologues qui sont autorisés à émettre une évaluation clinique qui peut aboutir au TDAH. Les neuropsychologues aussi peuvent le faire. Par contre, les psychologues et neuropsychologues ne peuvent pas prescrire des médicaments.
OK. Avant même d'aller dans les symptômes, là, est-ce que c'est bien ou disons qu'il y aurait peut-être lieu de repenser qui a la possibilité de diagnostiquer?
Bien, je pense qu'il faut surtout resserrer les règles diagnostiques pour tout le monde, pour tous les professionnels de la santé. Je pense que ça pourrait être une bonne manière de faire.
Donc, c'est la méthode que vous remettez en question et non qui pose le diagnostic.
Ça serait plus la méthode, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils sont pas de mauvaise foi là, quand ils diagnostiquent un TDAH. Tu sais, je pense qu'ils le font de bonne foi, puis qu'ils essaient vraiment de trouver le problème. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas du TDAH, l'identification ou l'étiquette TDAH est mise bien avant que le jeune rentre dans le bureau du médecin. Là. Donc, il y a autant les parents que le milieu scolaire qui contribuent là, à identifier des comportements d'hyperactivité, d'inattention, d'impulsivité, qui contribue aussi à étiqueter ces comportements-là comme étant un TDAH potentiel. Donc, ça fait en sorte que avant que les enfants rentrent dans le bureau du médecin, les parents puis les enseignants ont souvent une idée ou arrivent souvent dans le bureau en disant « mais je pense que mon enfant a le TDAH »
ouais.
ou « l'école pense que mon jeune a le TDAH ».
Bon, on a le TDAH, on a le trouble de l'opposition, on a plein de, disons, d'anomalies modernes, appelons ça comme ça, qui nous laisse songeurs comme parents et comme professionnels qui passent la journée avec eux. Mais si je vous demandais, disons, les symptômes ou la différence entre, disons, une immaturité tardive ou une maturité tardive et un TDAH, si vous aviez à poser un diagnostic, mais vous dites, ça, c'est pas un TDAH, ça, c'est plutôt... Disons, il n'est pas rendu là encore, mais peut-être l'année prochaine, il va.
Bien, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis sociologue. Alors, je ne pose pas de diagnostic clinique. Par contre, dans le cadre de mes recherches, puis c'est comme ça que j'en viens à dire qu'on est dans une médicalisation de l'immaturité. Ouais. Dans le cadre de mes recherches, j'ai un assez grand échantillon de jeunes, en fait, qui vont à l'école primaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui, il faut y revenir d'ailleurs, c'est ma prochaine question.
Okay.
Continuez.
Donc j'ai un grand échantillon, puis je me suis questionnée à savoir les jeunes qui sont les plus jeunes de la classe, donc ceux qui sont nés entre juillet et septembre, parce qu'au Québec, c'est au 30 septembre là, qu'on on doit avoir 5 ans au 30 septembre pour rentrer à l'école. Donc, ceux qui sont les plus jeunes de la classe, quand on les compare à ceux qui sont plus vieux, donc ceux qui sont nés entre octobre et novembre, est-ce qu'il y a une différence dans leur risque d'avoir un diagnostic de TDAH, de consommer des médicaments pour le TDAH, d'être identifié avec des comportements d'hyperactivité et d'inattention et d'être suspecté par les parents puis par les enseignants? Puis ce que mes études démontrent, c'est que les jeunes qui sont nés, donc les plus jeunes de la classe, ont effectivement un risque accru d'avoir un diagnostic de TDAH, de consommer des médicaments, d'être suspecté par les enseignants et d'être identifié avec plus de comportements d'hyperactivité et d'inattention. Donc, cette différence-là ou ce risque inégal selon le mois de naissance, oui. Cette observation-là a été faite partout dans le monde, sur tous les continents. Puis, on n'est pas encore capable d'expliquer à 100% le phénomène. Par contre, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que ça peut être justement lié à l'immaturité parce que les enfants, en fait... Quand on parle des faux diagnostics aussi, puis du 50% de jeunes qui ne reçoivent, qui ne devraient pas avoir le diagnostic, souvent c'est comme s'ils s'en sortaient, ces jeunes-là. C'est que on les mesure ou ils reçoivent le diagnostic à un certain âge, puis quand, par exemple, une étude scientifique décide de faire un test pour aller voir si cet enfant-là est bien TDAH, bien l'enfant ne répond plus aux critères. Donc, est-ce que c'est parce que la première fois, il y a eu une mauvaise évaluation ou c'est parce qu'il s'en est sorti justement parce qu'il a atteint les niveaux de maturité, en fait, qui font en sorte qu'il y a moins de comportements d'hyperactivité, d'inattention et d'impulsivité.
Mais Marie-Christine, je ne sais pas si les chiffres sont de vous ou si, disons, ils sont appuyés. Là, on parle de deux fois plus que la moyenne québécoise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des chiffres même publiés la semaine dernière avançaient que le tiers des ados auraient reçu un diagnostic.
C'est énorme.
Il y a un problème, là,
ouais.
Vraiment. Là. Mais en fait, la question était, les gens qui vous regardent quand vous avez sorti ces chiffres-là, est-ce qu'ils vous ont regardé de travers en disant « vous bousillez notre travail »
Ben en fait, je pense que les gens sont surpris là. Les professionnels de la santé les connaissent, là, connaissent cette réalité-là des plus jeunes de classe versus les plus vieux. Au niveau de l'école, tu sais, dans le sens que je pense que l'école là veut d'abord et avant tout veut bien faire puis veut aider les jeunes. Puis ce qu'on constate, c'est que les plus jeunes de classe aussi ont souvent plus de misère à l'école parce que bon, c'est un peu plus difficile. Peut-être le rythme va vite là. Selon leur niveau de maturité et tout ça, là, ils ont peut-être de la misère. Donc, l'enseignant, d'abord et avant tout, ce qu'il veut, c'est le bien-être du jeune. Puis, actuellement, tout le monde connaît le TDAH, tout le monde connaît la médication. Il y a plein de raisons là, qui font en sorte qu'on se tourne vers la médication, autant les parents que les enseignants. Puis, donc, je pense pas que c'est pour mal faire.
Non, mais c'est pas du Tylenol non plus.
Non, c'est pas du Tylenol, mais moi, il y a des médecins qui référaient au Ritalin comme étant du Advil scolaire.
Ben, justement. Voilà. Ouais. Nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Est-ce que de votre côté, vous avez une idée du moment où la commission rendra ses conclusions publiques?
Bientôt. En fait, je pense qu'ils se rencontrent prochainement. Là, la sortie publique, entre autres, de Sylvain Gaudreau, il y a deux semaines, fait en sorte que ça a un petit peu accéléré les choses. Donc, je sais qu'il y a des rencontres de prévues prochainement, donc j'imagine que les résultats vont sortir ou les conclusions sortiront prochainement.
Bon, alors, une opposition qui chiale parfois, c'est utile
oui, ça aide.
Pour une société. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Christine Brault.
Je vous remercie.
Je rappelle que Marie-Christine est professeure au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC.
Je marche dans la rue, je regarde la lumière.
Si elle est en place, Ariane Roy sur Canal M. Jean-Sébastien, j'écoutais Christiane la semaine dernière à cause de ma super douloureuse entorse. Alors, j'étais sur mon divan. Et tout juste après, j'entends des voix, l'émission qui suit Accès Libre.
Oui.
Ben là, j'ai entendu une belle plage musicale et Ariane Roy, avec Le ciel est en place, a commencé. Puis j'ai fait, ah, c'est bien bon ça. Et là, j'ai sorti sur ma petite, mon Apple Music, le mini-album. Mm-hmm. Puis là, j'ai trouvé Adèle, que moi j'adore, mais je savais pas que c'était la même fille. Mais tout ça pour dire, il y a de la super musique à Canal M l'après-midi. Est-ce que c'est toi qui fais la liste? Est-ce qu'il y en a toutes les après-midi? Et vraiment, si vous aimez la musique, il y a pas de pub, c'est bien fait, c'est très bon.
Il y en a presque toutes les après-midi. Ben, il y en a toutes les après-midi, c'est pas nécessairement la même heure de début, c'est pas la même durée. Donc des fois ça débute à 13h, des fois ça débute à 14h30, des fois ça se termine à 17h, des fois ça se termine plus tôt que ça. La musique, c'est soit moi, soit Maurice Bolduc qui okay. est responsable de l'assemblage musical.
Ok, en tout cas j'étais bien content. J'avais pas réalisé Adèle, en tout cas tu m'as remis Ariane Roy au goût du jour et je savais même pas qu'elle avait un mini-album. Alors si vous aimez la musique à la maison, là, c'est stéréo, c'est fabuleux. Causons de la maladie de Batten. Bon, pour les érudits, c'est la thyroïde lipofuscinose neuronale juvénile, donc une maladie génétique et dégénérative rare qui affecte surtout, vous l'aurez deviné, avec le juvénile, les enfants. Et ben, pour en parler avec nous, Stéphane Lefrançois, lui est chercheur à l'Institut national de recherche scientifique. Stéphane, d'abord, bon, on dit la maladie de Batten, on va l'appeler comme ça plutôt que le nom là, que j'ai dit une fois, puis ce sera tout. Mais qu'est-ce que la maladie de Batten?
Bon, bien, merci beaucoup pour l'invitation d'être présent avec vous aujourd'hui. La maladie Batten, comme vous l'avez dit, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte surtout les enfants, mais par contre, il y a des cas adultes aussi.
Okay.
Pour la forme juvénile, donc la protéine qui est impliquée, ça s'appelle CLN3. Et il y a plusieurs mutations qui sont connues dans cette protéine qui cause la maladie. Mais la fonction de la protéine n'était pas connue. Donc ça pose des problèmes au niveau comment traiter les enfants avec cette maladie.
Mais je remarque, bon, CLN3 pour thyroïde lipo, en tout cas ça, là, neuronal, donc
oui.
C'est quoi? C'est que cette protéine-là n'est pas fonctionnelle pour certaines personnes?
Oui, c'est ça.
Okay.
Donc, les patients qui ont des mutations dans les deux gènes, parce que les humains, on a tous souvent deux gènes. Donc, les mutations dans cette protéine va causer la maladie. Donc, les enfants souffrent d'une perte de vision, qui est souvent la première, le premier signe clinique qui amène les enfants chez le médecin.
Je lisais entre 5 et 8 ans environ?
Oui.
En général?
ça débute en général entre 5 et 8 ans. Mm-hmm. Et les filles qui ont la maladie ont les symptômes en général un an plus tard que les garçons.
Okay.
Mais par contre, les filles ont une maladie plus agressive, donc il y a une dégénération plus rapide que chez les garçons. Et souvent, ils perdent leur vie avant les garçons. Mais les scientifiques, on ne connaît pas pourquoi il y a cette différence entre les filles et les garçons.
La durée de vie potentielle serait de 30 ans, l'espérance de vie?
Oui, exactement. Donc, la plupart des enfants atteints de la maladie perdent leur vie environ dans la troisième décennie de leur vie.
Donc, je comprends que si personne perd la vie parce qu'ils perdent la vue, c'est que c'est passé autre chose entre l'âge de 8 ans et de 30 ans. Là.
Oui, exactement. Donc, les patients souffrent de d'autres maladies, surtout, ils ont des formes d'épilepsie. Donc, ça, c'est un gros problème pour ces enfants-là. Il y a une perte cognitive chez les enfants. Et il y a souvent des pertes de mobilité aussi avec les enfants. Donc, souvent, vers l'âge de 15 d'années, se retrouvent dans une chaise roulante.
Wow. Y a-t-il un moyen de savoir, lorsqu'il y a une baisse de la vision entre 5 et 8 ans, que c'est ce qui attend cet enfant-là ou on le sait pas, faut juste voir l'évolution?
Souvent, la plupart des enfants, ils ont ce processus que j'ai décrit au niveau de la dégénérescence dans les différentes fonctions, soit cognitives ou mobilité, mais c'est pas tout le temps le cas chez tous les enfants.
Okay. Maintenant, bon, si on regarde, parce que si on vous parle, c'est que bon, vous avez découvert quelque chose d'important.
Oui, exactement. Donc, la maladie Batten, il y a la forme juvénile, mais il y a 12 autres formes de gènes qui sont impliquées dans la maladie. La plupart des protéines qui sont impliquées dans la maladie où ce qu'on retrouve les mutations, la fonction n'est pas connue. CLN3 était la fonction n'était pas connue, donc c'est difficile à trouver des petites molécules ou des traitements pour ces enfants-là. Mmh. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a démontré? C'est qu'on est le premier groupe à démontrer une fonction spécifique pour la protéine CLN3. Et on a retrouvé au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, c'est quoi qui se passe quand la protéine est mutée et c'est quoi la dysfonction cellulaire qui arrive avec les mutations dans la protéine qui cause la maladie.
Comment arrive-t-on à une telle découverte? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans le labo et ça fait combien de temps qu'on cherche à comprendre la cause?
J'avoue que j'aimerais donner crédit aux étudiants et aux autres personnes qui travaillent dans mon labo, qui ont fait ces recherches au niveau du laboratoire. C'est un projet qui a commencé ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille dessus. Donc, c'est un effort collectif de plusieurs étudiants. Donc, on avait des idées de qu'est-ce qui pouvait se passer quand la protéine n'était pas dans la cellule ou était mutée dans la cellule. Donc, on a fait ces travaux-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive dans la cellule quand les mutations sont présentes au niveau de la protéine. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une partie de la cellule qui s'appelle les lysosomes, qui est un comportement de recyclage dans la cellule. Et quand la protéine CLN3 est mutée, les lysosomes ne fonctionnent pas correctement.
Okay.
Donc, il y a une accumulation de matériaux au niveau des cellules. Donc, au lieu de recycler les matériaux et de réutiliser les matériaux pour la fonction cellulaire, les lysosomes arrêtent de fonctionner correctement et ça cause la mort cellulaire. Et les neurones au niveau du cerveau sont très affectés par la perte de fonction du lysosome.
Alors, la solution serait de trouver un lysosome synthétique ou quelque chose comme ça?
Non. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'il y a un processus qu'on a découvert qui est aberrant au niveau des cellules où il y a des mutations dans CLN3. Donc, ce serait essayer de trouver soit une petite molécule qui pourrait restaurer la fonction de CLN3 au niveau des cellules.
Donc, inverser la mutation, si on veut.
Pas tout à fait, non. Juste aider la cellule à reprendre les fonctions. L'autre méthode que des gens sont en train de regarder, c'est d'essayer de remettre CLN3 dans les cellules des patients qui pourraient compenser pour la perte de fonction du CLN3 muté.
OK. On a une idée, parce qu'on parle d'une maladie rare, mais oui. On parle de combien d'enfants sur, disons, 100 000 ou 1 million? Est-ce qu'on a une idée?
Ça varie un peu dans les différents pays, mais 1 en 10 000 à 1 en 100 000 personnes sont affectées par ces maladies rares.
Et je crois avoir dit que c'était une maladie génétique, donc un des deux parents est porteur.
Exactement. Pour que les enfants aient la maladie, les deux parents, il faut qu'ils soient porteurs, avec juste une mutation chaque. Et donc, les enfants qui ont les mutations dans les deux gènes sont affectés par la maladie.
Ce qu'on vient de trouver en terminant, c'est pas nécessairement quelque chose qui va aider ceux qui sont atteints, parce que j'imagine qu'avant qu'on trouve la façon d'aider la CLN3, ça va prendre encore pas mal de temps, mais c'est ça, c'est pour le futur, c'est pour la génération qui nous suit?
Exactement, c'est pour la future et c'est la base de, on espère, les prochaines découvertes pour traiter les enfants.
Ouais. En tout cas, bravo à vous et à vos étudiants. Stéphane Lefrançois, qui est chercheur à l'Institut national de recherche scientifique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Petite pause ensuite, il y aura revue de presse avec Christiane. Et comme je vous dis aujourd'hui, on parle de nouvelles façons d'aider les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et on va parler de femmes et de violences faites contre elles, surtout celles avec des limitations fonctionnelles.
Vous écoutez Accès libre.
J'ai failli parler, mais il m'a coupé la parole. Enfin, j'ai pas parlé, mais il m'a coupé le souffle, M. Pierre. Hey, Christiane Campagnat, bonjour.
Luc Fortin.
Je ne vous demanderai pas comment vous allez parce qu'on s'est parlé déjà, mais oui. Heureux de vous retrouver.
Ben, moi aussi.
C'est le moment de la revue de presse.
Oui, en fait, cette semaine, je me suis attardée à un article paru sur le site de Forbes. C'est M. Andrew Perlang, qui est un contributeur régulier pour parler de questions de handicap. Et il parle d'innovations en matière de solutions au handicap, si on veut, et de trois pièges à éviter. Le premier étant les inventions qui ont l'air cool et excitantes, mais qui ne sont pas très utiles. Ce qu'il raconte, c'est que plusieurs fois par an, on voit circuler des publications sur un nouveau produit de haute technologie qui est en cours de développement et qui va résoudre un problème fondamental pour les personnes handicapées, en particulier celles à mobilité réduite. Ces histoires génèrent une certaine excitation, et pour en avoir vu passer sur les médias sociaux, j'ajouterais généralement chez des personnes qui n'ont pas de handicap.
Oui, oui. Ouais.
Et beaucoup de scepticisme, par contre, souvent de la part des personnes qui ont un handicap, ce qui vient avec parfois un certain backlash.
On se tient loin de ça, toi et moi. D'ailleurs, c'est très rare qu'on fait des entrevues comme celle avec Stéphane Lefrançois, mais on a voulu quand même préciser que ça allait peut-être porter fruit pour la génération suivante, parce que justement, ça crée des faux espoirs trop souvent.
Oui, mais là, on parlait d'une solution à long terme pour régler une maladie, mais souvent, ce sont des solutions technologiques. Et que le problème avec ces nouveaux produits, c'est qu'ils sont impressionnants, mais qu'ils sont souvent peu pratiques et généralement inabordables pour la plupart des personnes handicapées. Et selon lui, ce sont des histoires qui illustrent le fossé subtil entre deux réponses différentes au handicap, entre masquer ou surmonter des déficiences spécifiques, ou plutôt essayer de rendre la vie quotidienne des personnes en situation de handicap plus facile. Et que, selon lui, oui, certaines personnes handicapées rêvent de remarcher grâce à la haute technologie, comme des exosquelettes ou des fauteuils roulants qui grimpent les escaliers, mais la plupart veulent, d'une manière plus immédiate, des fauteuils roulants plus abordables, ainsi que des bâtiments et des quartiers plus accessibles.
Tout à fait, tout à fait.
Puis d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça suscite généralement sur les médias sociaux une réponse plus enthousiaste chez les personnes non handicapées, mmh, parce que pour elles, la solution, c'est que la personne ne le soit plus.
Ouais, ouais.
Qu'elle fasse comme eux. Il dit, lui, que le problème central, c'est qu'elle représente un point de vue justement des non-handicapés. Ce n'est pas vraiment ce dont les personnes handicapées ont besoin et que ça découle de priorités mal placées ou d'un manque de compréhension de ce qui est plus utile et réalisable. Et il faut arrêter de penser à vaincre le handicap et plutôt penser en premier à réduire les obstacles.
Oui, j'ai presque envie de dire que c'est... Il y a comme deux... pas des priorités, mais deux façons de voir ça en ce sens. Le privé et peut-être les chaires de recherche, eux, peuvent travailler sur le développement futur, mais l'État, la société, elle, doit travailler sur le maintenant.
Oui. Le deuxième piège, c'est quelque chose dont tu as déjà parlé, c'est lancer de nouveaux projets sur lesquels d'autres personnes travaillent déjà. L'auteur donne différents exemples américains, mais moi, ça m'a fait penser à ce que tu avais souvent souligné à l'émission concernant notamment...
Les applications avec les maisons accessibles.
Exactement,
yeah,
les projets d'enroule.org,
ouais, ouais,
les projets
ouais.
D'une application dans la région de Brome-Missisquoi, mm-hmm. Il y en a une autre dans la région de
Gatineau,
Québec.
Gatineau, puis ouais.
Oui, exactement. Alors, selon l'auteur, ça découle du fait que les non-handicapés, même certaines personnes handicapées, pensent que le domaine de l'accessibilité, c'est une table rase, que personne n'a pensé à faire ça avant et qu'on demande... qui ne demande qu'à être écrite dessus. Je fais de la traduction un peu libre.
Ouais,
là.
Ouais. Non, mais c'est comme, j'ai une bonne idée! Et il y en a qui l'ont eu déjà depuis 8 ans, puis ce qu'il faut, c'est complémenter cette idée-là.
C'est ça. Alors, selon lui, on réinvente trop souvent la roue.
Ouais, ouais.
Et enfin, il trouve que souvent, on fait la promotion de nouveaux modèles qui ne sont pas vraiment nouveaux. Il parle de la tendance récente à ouvrir des cafés qui embauchent des personnes en situation de handicap ou des entreprises spécialisées. Souvent, c'est lancé par des parents. Les intentions sont bonnes, mais ils s'interrogent sur le caractère d'inclusion de ces organismes-là qui sont créés spécifiquement.
Pourquoi?
Pour embaucher des personnes en situation de handicap. Puis il dit que les militants s'interrogent beaucoup sur les salaires qui sont donnés. Mais ça, c'était... En tout cas, c'est celui sur lequel je me suis posé le plus de questions,
ouais,
parce que
ouais.
Je comprends le principe que... des parents inquiets de ce qui va arriver à leur enfant à 18 ans, puis ils décident de créer l'emploi.
Ben, tout à fait.
Si on veut, ou l'hébergement.
Si le café est bon, puis il n'est pas loin de chez moi.
Ben voilà.
Puis ça donne de l'emploi à, tu sais, Pierre-Jean-Jacques qui a une limitation quelconque.
C'est ça. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il reste à démontrer si ces entreprises représentent de réelles opportunités,
ouais,
et un salaire équitable pour les travailleurs, ou si c'est juste des choses qui vont exploiter le caractère inspirant de la chose. En fait, il propose 3 solutions au bout du compte, toutes simples. 1, Google it, pour
okay.
savoir si le projet existe déjà. 2, de se joindre à des projets existants et sonder le milieu pour savoir ce que les personnes concernées en pensent.
Oui, oui, tout à fait. Ça sonne une cloche. Un jour, peut-être, je vous dirai pourquoi, là, mais il y a quelqu'un et moi qui travaillons sur un projet ici et on avait plein d'idées. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, on devrait peut-être consulter les gens pour qui ces projets-là sont destinés avant, puis ensuite, on élaborera la suite des choses. Alors, je suis tout à fait d'accord. Merci, Mme Campagnat.
Je vous en prie.
C'est pas la première fois que nous abordons la violence faite aux femmes en situation de handicap, mais les chiffres demeurent inquiétants et cette catégorie est encore sous-représentée par les études, les recherches sur la violence faite aux femmes, surtout les femmes en situation de handicap. Tiens, je vous parlais de chiffres parlants. En 2014, la proportion de femmes avec incapacité qui ont déclaré être victimes de violences conjugales, qu'il s'agisse d'actes de violence physique ou sexuelle, au cours des 5 années précédant le sondage ou l'enquête, ben, on parle du double des femmes comparativement aux autres sans incapacité, donc 6,2 contre 2,7. Alors, Christiane et moi avions envie de revenir sur le sujet, surtout bon, au lendemain du 8 mars, et parce que le gouvernement s'y intéresse depuis quelques mois, et on va le faire avec Karine Mirgiani-Jean-François. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Vous êtes gestionnaire principal du projet Réseau d'action des femmes handicapées Canada. Rappelez-nous pourquoi on dit que les femmes avec un handicap physique ou intellectuel sont plus vulnérables à la violence conjugale.
Mais en fait, je pense que l'important de réaliser, c'est que il y a présentement 25 % des femmes au Canada qui sont des femmes en situation de handicap. Puis les handicaps physiques, donc qu'on utilise un fauteuil roulant, des handicaps visuels, qu'on soit aveugle, la surdité, ça inclut également tout ce qui est sur le spectre de l'autisme, santé mentale. Donc c'est vraiment un large spectre. Et on perçoit rarement qu'on peut être en couple, en fait. Cette capacité ordinaire-là, sans compter l'isolement et la stigmatisation qui sont déjà liés au handicap, fait qu'il est très rare que les femmes en situation de handicap aient l'occasion de parler de leur réalité. Puis, il n'existe pas des programmes par et pour, des groupes de soutien qui ont vraiment été pensés pour les femmes en situation de handicap. Fait que pour nous, quand on pense à ça, au Réseau Action Femmes Handicapées du Canada, c'est que oui, il y a les statistiques qui nous prouvent que les femmes en situation de handicap, en général, sont plus susceptibles de vivre des épisodes de violence conjugale ou des épisodes de violence en général. Mais que pour certaines femmes, ça va encore plus augmenter quand on parle, par exemple, d'handicap intellectuel. C'est pas toujours la même chose.
On l'a déjà mentionné, mais quand même, je pense que ça vaut la peine de parler des facteurs qui augmentent les difficultés de se sortir d'une situation d'abus pour une femme en situation de handicap. Quand je dis on a déjà parlé, c'est pas nécessairement aujourd'hui, là, mais dans le passé, ce sont quand même des réalités qui sont trop souvent oubliées ou escamotées par ceux et celles qui pensent au refuge, entre autres.
Exactement. Puis, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a différents, ce qu'on appelle des facteurs de risque, qu'on va nommer, que ce soit comme l'isolement social ou l'attitude négative de la société, la difficulté d'accès aux services, la peur qui sont liées aussi au dévoiement de la violence. Quand on pense qu'on peut être en couple avec une personne dans la même communauté que nous, bien, ça va se savoir.
Ouais. Parce que pour bien des communautés, ce sont des communautés quand même un peu tissées serrées.
Oui, exactement. Pour beaucoup de femmes sourdes avec qui nous avons travaillé dans le passé, c'est réellement un enjeu de nommer cette réalité de violence dans leur couple, de se sentir potentiellement isolée suite à cette dénonciation-là, mais aussi de ne pas avoir accès à des services de qualité pour pouvoir sortir de cette traumatisation-là.
Je pense entre autres aux femmes sourdes. Les gens se connaissent bien souvent et c'est difficile de dénoncer parce que on a peur d'être mis à la rue, que ce soit à cause de la pauvreté, une difficulté financière, une dépendance physique même.
Ben c'est ça, puis ça fait partie de la violence. Nous autres, souvent, quand on parle de violence conjugale, en fait, quand le gouvernement pense à la violence conjugale, il pense vraiment à une relation purement amoureuse, romantique, sexuelle, mais il y a aussi des relations que nous, on considère comme de la violence conjugale, de la violence qui se déroule au foyer, par des personnes qui sont techniquement là pour soutenir, donc de pas avoir accès à ton respirateur, de pas recevoir la médication qui est nécessaire, de pas pouvoir avoir droit au changement de couche, par exemple. Ça, c'est d'autres manières, en fait, d'exercer de la violence psychologique.
Et quand on est rendu là, Karine, là, c'est parce qu'on fait dur comme individu, mais vous dites que ça existe.
Ben ça existe.
Wow.
Puis c'est beaucoup dans une question de pouvoir. Et puis ça, c'est la chose qui est vraiment importante à réaliser, c'est que on est rarement seul à vivre ces actes de violence-là. Souvent, on pense qu'on est les seuls. L'isolement social, le handicap nous isole, mais en plus de ça, la violence isole encore plus. Le fait de prendre la parole, de dénoncer ça, même si c'est difficile, c'est aussi une manière de reprendre du pouvoir dans notre vie.
Et d'empêcher que monsieur ou madame ne fasse la même offense à quelqu'un d'autre par la suite, là.
Exactement, parce que on sait qu'on n'a pas toujours les meilleures formations par rapport à c'est quoi une relation égalitaire. Là, présentement, il y a toute la question du cours d'éthique et culture religieuse, il y a le cours d'éducation à la sexualité qui est en train de revenir dans les écoles primaires et secondaires au Québec présentement, mais pendant longtemps, on n'a pas parlé de ça, et pour beaucoup de jeunes en situation de handicap, s'ils sont fait exclure en fait des peu de cours qui existaient à l'époque. Donc, comment est-ce qu'on bâtit une relation saine égalitaire? Comment est-ce qu'on reconnaît quand elle n'est pas saine? Puis aussi savoir quelles ressources existent qui sont adaptées, qui vont comprendre nos réalités. Et ça, c'est vraiment l'enjeu principal. Puis c'est pour ça qu'on a été invité il y a deux semaines pour parler des enjeux des femmes en contexte de vulnérabilité au comité de travail qui examine le plan d'action sur la violence conjugale au niveau du Québec, donc avec tout plein de ministères, des chercheurs, la Ville de Montréal, le service de police de la Ville aussi, ainsi que quelques regroupements de maisons d'hébergement en violence conjugale.
Karine Mirgiani, Jean-François, est gestionnaire principal du projet Réseau d'action des femmes Canada. Est-ce qu'on a une idée de ce qui sera inclus dans ce plan d'action gouvernemental ou il est beaucoup trop tôt?
Bien, en fait, le plan d'action a été adopté sous l'ancien gouvernement libéral.
Okay.
Présentement, le gouvernement caquiste est en train de revoir, parce qu'en fait, on réalise que ce plan n'est pas suffisant.
Étant
donné le nombre de femmes qui sont pas nécessairement sans handicap, mais de femmes qui ont été assassinées par leurs ex-conjoints ou conjoints dans les derniers mois. Donc, c'est en train de voir comment est-ce qu'on peut le bonifier. Il y a une mesure qui parle des personnes en situation de handicap, mais dans une perspective de faire de la recherche, puis il faut consulter et voir, donc d'organiser un forum qui devra avoir lieu dans la deuxième, peut-être d'ici un an ou deux, selon la personne qui présentait le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Ouais. Y a-t-il des règles ou des normes obligatoires lorsqu'il est question de refuge, à savoir de le rendre accessible, de s'assurer qu'il y aura une personne en LSQ ou...
Malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Puis ça, pour nous, c'est un des enjeux majeurs qu'on a regardé, parce que la législation, les politiques assument que toutes les femmes ont droit au service, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que les maisons ne sont pas outillées, par exemple. Ce n'est pas le cas parce qu'elles n'ont pas les subventions. Et ce n'est pas le cas parce qu'elles ne voient pas ces femmes. Elle ne voit pas sa femme en handicap qui essaie de suivre leur service et par conséquent ne voit pas l'intérêt de dépenser de l'argent, de se former.
Mais vous et moi comprenons que tu ne peux pas les voir si tu n'es pas accueillante pour elles. S'il y a des marches, tu n'auras pas personne qui va aller en fauteuil roulant chez vous.
Exactement, mais aussi non seulement ça, mais il faut que c'est des adresses confidentielles.
Bien sûr,
il
faut le trouver, ce refuge-là.
Mais oui, on peut pas, le transport adapté, il peut pas laisser, il faut être entièrement autonome, parce que si on n'est pas autonome pour faire des transferts...
Oui, puis il faut savoir 24 heures d'avance qu'on va se faire battre demain à 18h06 pour que le transport nous ramasse à 18h30.
Exact. Et ça, c'est un autre enjeu majeur. C'est arrivé des exemples, on a entendu vraiment des exemples d'horreur d'une femme qui appelle et qui sont dit « OK, on a une place à telle place, mais que ni le service de police, ni les ambulances, ni le transport adapté, il n'y a aucun taxi, il n'y a personne qui est capable d'aller la chercher chez elle. » Et donc, par conséquent, ne peut pas avoir accès jusqu'à peut-être 24 heures plus tard à une chambre qui serait adaptée. Et ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que beaucoup de ces ressources-là ne sont pas adaptées en LSQ.
Ouais,
donc, la seule manière de consulter, puis ça, c'est pour les personnes aussi qui ont des femmes qui ont des enjeux autour de la communication, que ce soit parce qu'elles sont sourdes, parce qu'elles sont très anxieuses, sur les femmes de spectre de l'autisme, il faut appeler pour avoir des services. Mais pour beaucoup de femmes, c'est plus facile de texter, d'envoyer un courriel.
Mais
on ne sont pas nécessairement adaptés à ces nouvelles technologies-là.
Puis t'as pas toujours le temps de passer par le service relais vidéo, le t'appel, faut attendre un peu parce que le préposé est occupé avec un autre appel.
Exactement. Et donc, ça fait partie des choses aussi que nous, on trouve ça important, c'est d'avoir une flexibilité dans la manière dont on offre des services. Il y a certaines maisons d'hébergement qui l'ont compris. Et au lieu d'exiger que les femmes sortent de chez elles, une femme qui est agoraphobe, par exemple, qui est incapable de sortir de chez elle, on va dire, on va t'offrir des services, envoie-nous des courriels, appelle-nous. Si ça, tu es capable de faire, on va t'accompagner où tu es rendu. Et quand tu seras prête à venir pour des services externes ou un séjour en maison d'hébergement, on va être là pour toi. Mais c'est bâtir cette confiance-là, c'est des fois aller au-delà de leur protocole habituel pour pouvoir accueillir davantage de femmes, mais aussi faire savoir et faire connaître que ces services-là sont disponibles et non pas juste de mettre un numéro de téléphone, appelez-nous pour prendre rendez-vous.
Karine, il y a d'autres rencontres à venir bientôt qui vont continuer de faire évoluer le dossier positivement?
Alors, c'était la première rencontre de ce comité de travail-là. Nous, on était des invités seulement pour une période.
Bon.
Il va y avoir une autre rencontre dans la prochaine année. Et techniquement, chacun des ministères.
Okay.
Oui, c'est pas un comité qui se réunit très fréquemment. Et c'est un comité qui est beaucoup envers les ministères en général. Donc, nous, on va potentiellement être invités. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai rappelé à la fin. C'est de s'assurer de qui est autour de la table et qui n'est pas là. Parce que quand en tant que femme en handicap, on n'est pas présente, nos expériences ne sont pas représentées.
Bien sûr, bien sûr. Et,
c'est important de s'assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui sont autour de ces mêmes tables-là et qui décident des solutions qui pourraient fonctionner, mais pas pour tout le monde.
Nous sommes d'accord, Karine Mirgiani, Jean-François, qui est, je le disais, gestionnaire principal du projet Réseau d'action des femmes handicapées Canada. Merci beaucoup, Karine.
Bien, merci à vous.
L'autre jour, en me promenant au hasard pour passer le temps, j'ai bifurqué vers un quartier qu'il y a longtemps j'avais quitté, devant la mer de goélands qui colore la place tout en blanc. Je me suis arrêté le temps d'un flashback adolescent au pied de la statue de qui nous sommes deux autrefois souris. Ce jeudi m'arrête, comme s'essouffle une allumette. C'est ce souvenir si puissant, une étincelle de nos 16 ans. Aurais-je pu comprendre avant quel était cet effet troublant quand nous nous étions enlacés d'une étreinte mal assurée? Mais l'éclair était-il mutuel? Les oiseaux passaient dans le ciel. Je me revois encore souhaiter que ça dure toute la journée. Si je n'étais jamais repassée sur ces traces un peu oubliées, jamais je n'aurais pu nommer ce qui ce jour m'a habité. Ce sentiment indéfini qui nous étonne toute la vie. Après toutes ces années, qu'à cet instant, je t'ai aimé.
Jean-Sébastien, un jour, on fera une table ronde sur ces Québécois, Québécoises qui ont décidé de chanter comme les gens de l'Hexagone. Hein? On a fait grand état, à un moment donné, de tous ces Québécois qui chantent en anglais, mais ceux qui chantent à la française, je ne sais pas encore quoi penser de ça, même si j'aime bien Evelyne Brochu, j'avoue. Une conférence de Michel Garcia Winner sur l'approche de la pensée sociale pour les professionnels travaillant auprès des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Si j'ai bien compris, ce serait l'idée d'Isabelle Rousseau, qui elle est enseignante en adaptation scolaire à l'école secondaire Fernand Seguin de Candiac. Bonjour Isabelle, c'est vrai que c'est votre idée de faire venir Mme Garcia Winner?
Oui, bonjour M. Fortin. Effectivement, c'est une idée... Une idée un peu folle que j'ai eue il y a un peu plus d'un an et demi.
Et que c'est tentant de dire c'est une idée winner, mais ce serait tellement de mauvais goût. Pourquoi la faire venir et qui est-elle?
Mais en fait, Michelle Garcia Winner est une orthophoniste américaine. Elle vient de la Californie. Et
Va vous coûter cher?
C'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas y aller.
Oui.
Parce qu'on était intéressé par son approche. Et c'est ça. C'est, les coûts étaient trop importants pour qu'on puisse se déplacer pour la rencontrer. Donc, on a lancé ça tout bonnement.
Mais excusez-moi, je vous ai interrompu. Parlez-moi d'elle. Je n'aurais pas dû vous interrompre en plein élan. Là. Parlez-moi de Michelle. Pourquoi la faire venir?
Bien, c'est ça. Donc, la faire venir pour qu'elle partage avec nous, puis en fait, avec une grande partie des intervenants auprès des TSA. Donc, qu'elle partage un peu son approche. La méthodologie, en fait, qu'elle a développée à la fin des années 90, qui est une méthodologie qui favorise les compétences sociales chez les personnes TSA, mais aussi chez les personnes qui ont des troubles de la communication sociale et pour certaines personnes qui peuvent avoir aussi de l'anxiété sociale. Donc, c'est une méthodologie qui permet aux personnes autistes, entre autres, de développer, là, de mieux se connaître, de mieux connaître les autres et ainsi de développer là, leur façon d'interagir sainement avec les autres.
Est-ce que c'est complémentaire, disons, à SACAD ou à TEACH, qui sont d'autres approches, ou c'est, disons, complètement une autre façon d'aborder l'apprentissage pour ces gens-là?
Ben, c'est à la fois une autre façon d'aborder, mais aussi complémentaire parce que les approches dont vous venez de parler ne correspondent pas là, aux besoins de chacune des personnes TSA. Donc, plus on a d'outils dans notre sac, en fait, plus on est en mesure d'intervenir de la façon dont nos jeunes ont besoin qu'on travaille avec eux. Donc, oui, effectivement, FACAD, c'est une formation que la majorité des enseignants dans mon école ont reçue également, les enseignants et les éducateurs spécialisés. Ça vient compléter un peu notre approche pour qu'on puisse de façon plus efficace répondre aux besoins de nos jeunes.
Teach, mis à part le fait que ça fait des petits obèses, est-ce que c'est encore en vogue? Est-ce que c'est encore utile?
Ben en fait, c'est pas je connais pas là le taux d'obésité par rapport
non, mais ça,
à
c'est,
ça,
c'est pour avoir eu parce que des amis nous disaient les enfants voulaient toujours des crottes au fromage et finalement
ah, oui,
ça okay. On remarquait qu'il prenait du poids, oui.
Oui, OK. Donc, en fait, dans notre commission scolaire, à nous, c'est peu utilisé.
Okay.
Mais je sais, pour avoir visité d'autres écoles dans d'autres commissions scolaires, que c'est encore, ça peut encore être utilisé
ouais.
avec certains élèves. Mais comme je vous dis, c'est pas non plus acheté complètement à la poubelle, puisque ça peut répondre aux besoins de certains.
Isabelle, est-ce que vous appliquez déjà certains aspects de la pensée sociale ou vraiment vous voulez apprendre pour l'appliquer là, en septembre?
Ben en fait, j'applique déjà
okay.
certains principes de cette méthodologie-là, puisque j'ai pu être formée brièvement là, par des orthophonistes de notre commission scolaire, mais aussi parce que Michel Garcia-Wenner propose plein de vidéos sur YouTube. On peut aller regarder ces vidéos-là et avoir une bonne connaissance, là, en tout cas, une bonne idée de ce qu'elle propose. On a aussi acheté parce que Social Thinking produit aussi des livres, des manuels.
Ah, okay.
Donc, à l'école ici, on a acheté quelques-uns et puis à travers ces manuels-là, là, ça nous donne aussi des outils pour intervenir.
En général, puis bon, c'est juste entre vous et moi, là, est-ce que les professeurs aiment apprendre des nouvelles approches comme ça ou c'est comme... Hey, ça m'a pris tellement de temps à intégrer les principes de l'autre, s'il vous plaît, on est tanné de changer puis de recommencer à la base.
Oui, je comprends très bien votre question. Oui,
parce que c'est quand même deux jours là, ce que vous proposez comme atelier.
Oui, il y a effectivement des gens qui, enseignants, éducateurs, professionnels, peu importe, mais il y a effectivement des gens qui sont un peu plus réticents, qui sont moins intéressés par les nouveautés, mais je vous dirais que, en tout cas, dans notre école ici, c'est pas le cas. Tout le monde participera à cette formation-là. Mais aussi, ça demande pas nécessairement de changer toute notre approche. Moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça vient ajouter à ce qu'on fait déjà. C'est comme une paire de lunettes, en fait, qu'on peut porter, puis on peut regarder, puis interpréter les difficultés de nos élèves à partir de cette paire de lunettes-là qui nous donne une compréhension peut-être un peu plus globale de leurs difficultés. Puis à partir de là, ben, on peut intervenir avec les techniques proposées.
Ça, c'est un jeudi-vendredi. Est-ce que ce sont des journées pédagogiques?
Non, ce ne sont pas des journées pédagogiques.
Qu'est-ce qu'ils font? Les Vous dites que tout le monde de l'école y sera?
Ben pas tout le monde de l'école.
Okay,
les
okay.
enseignants qui enseignent
okay.
au groupe TSA de notre école.
Est-ce qu'il reste de la place? Si oui, c'est combien? Et est-ce que c'est uniquement pour les professionnels ou les proches et les parents peuvent peut-être en profiter également?
Ben en fait, c'est pour tous les proches et les parents. On a quelques parents qui sont inscrits déjà. En fait, il reste quelques places. Mais les inscriptions se terminent vendredi,
okay.
le 13 mars à 16h. Donc, il reste de la place, mais peu de temps pour s'inscrire.
Et le coût de l'inscription?
C'est 250 $ pour les deux jours et ça inclut les repas.
Et ça, normalement, est-ce que c'est... Moi, je connais pas ça. Là. C'est l'école qui paye ça ou les individus qui déboursent ça de leur bon vouloir?
Ben, dépendamment du milieu de travail de la personne qui est inscrite.
Ouais.
En fait, si c'est un enseignant, si c'est dans le milieu scolaire, c'est le budget de perfectionnement des écoles qui paie les formations
ouais.
continues.
OK. Ben, Isabelle Rousseau, merci beaucoup. On vous souhaite un bon 2-3 avril prochain. Les gens ont jusqu'au 13 mars, donc ce vendredi, 16h. Tiens, le site web, rapidement.
C'est bit.ly, 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 conférence, MGW, comme Michel Garcia Winner.
Ouais, faut, j'espère que vous l'avez noté à la maison. Elle est enseignante en adaptation scolaire à l'école Fernand Séguin, du côté de Candiac. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Jean-Sébastien. Yeah, on est revenu. On a fait notre heure de radio. Et Gabriel Allard-Gagnon, qui est documentaliste, d'ailleurs, pendant la pièce, tantôt, je suis sorti en disant « Hey, faut que tu fasses un documentaire ou une série balado sur les femmes en situation de handicap qui sont violentées. » Enfin, bref, on va causer balado avec Gabriel dans 2 minutes pour les autres abonnés d'Accès Libre. À lundi!